la paix. Il est 12h. Le journal du midi. Didier Blé.
Excellente mi-journée à tous. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver. Bienvenue sur nos antennes. Célébration de la 25e édition de la Journée nationale de la paix, nous y reviendrons justement. Et l'Église catholique de Côte d'Ivoire en saisit cette occasion pour appeler à la culture de la paix, au vivre ensemble et au pardon. Vous entendrez dans ce journal le père Norbert Erika Bécan. Paix et cohésion sociale toujours, transcender les divergences et œuvrer au rayonnement de la paix de la région du Bekè. C'est l'invitation formulée par le chef de canton de Béoumi aux élus et cadres de la région. Au Sénégal, le PASTEF a annoncé dimanche soir son plan B pour l'élection présidentielle de février 2024 après l'échec de son leader Ousmane Sonko qui n'a pas réussi à être de nouveau inscrit sur les listes électorales. Et puis en football, Ligue des Champions, Ligue africaine des champions d'âme, les Mamelodi Sundowns ont survolé hier soir en finale les Marocains du Sporting de Casablanca, Sport 3-0. Enfin, l'invité de la rédaction, le président de Civis Côte d'Ivoire, Dr Christophe Kwami, est notre invité. Avec lui, il sera question justement de la déclaration du patrimoine dans l'administration publique. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonjour. Célébration de la 27e édition de la Journée nationale de la paix, le 15 novembre dernier, l'Église catholique de Côte d'Ivoire saisit cette occasion pour appeler à la culture de la paix, au vivre ensemble et au pardon du prochain. C'est notamment le message que lance aux Ivoiriens et autres habitants de la Côte d'Ivoire le père Norbert Erika Bécan, secrétaire exécutif national de la Commission Justice, Paix et Environnement de l'Église catholique. Il est en ligne avec Soro Adams.
La paix, c'est pas un vain mot, c'est un comportement. C'est notre premier président qui disait ça. Hein. L'Église catholique, la paix, c'est la personne du Christ Jésus, le prince de la paix, justement. Hein. C'est lui ressuscité qui dit à ses apôtres, la paix soit avec vous. Allez annoncer la paix. Alors, pour nous aujourd'hui qui marchons dans cette vallée des larmes, alors quand nous regardons dans notre monde aujourd'hui, quels sont les cris que nous entendons? C'est les cris de souffrance, les cris de guerre. Et notre pays, la Côte d'Ivoire, est passé par ce chemin douloureux pour dire que, au fond, quand on regarde d'où viennent ces guerres, d'où viennent toutes ces tensions, mais ça vient des cœurs des personnes. Donc, comment faire? Au fond, tous nous sommes appelés à porter et à créer des conditions de paix, donner de la paix. Nous le pouvons. Revenons d'abord à Dieu qui est la source de paix. Pour nous chrétiens, on a dû revenir à Jésus-Christ, la source de paix, pour pouvoir communiquer ses paroles d'amour. Autrement dit, il faudrait que notre maison commune, notre pays, ne soit pas une jungle où le loup mange l'agneau, ne soit pas une jungle où les plus forts écrasent les plus faibles, mais un lieu où il fait bon vivre.
Cohabitation des différences.
Exactement, exactement. Aller au-delà des différences, c'est exactement ça la paix.
Le père Norbert Erika Bécan, secrétaire exécutif national de la Commission Justice, Paix et Environnement de l'Église catholique. Dans le Bekè, la deuxième session du Conseil régional tenue le vendredi 10 novembre a été un prétexte pour le chef de canton de Béoumi, Nana Agoyao Barthélémy, d'appeler les cadres élus de la région à transcender leurs divergences et à travailler ensemble pour le rayonnement du Bekè. Plus de détails avec Joseph Assalé.
Le développement de la région de Bekè ne doit pas se réaliser de manière éparse. Bien au contraire, il doit se faire dans la cohésion et la collaboration, à l'effet de fédérer toutes les énergies et les intelligences pour l'épanouissement des populations. C'est le cri de cœur lancé par le chef de canton de Béoumi à l'occasion de la deuxième session du Conseil régional de Bekè. Écoutons Nana Agoyao Barthélémy dans des propos bien imagés.
Tu as des idées, j'ai les miennes. Mais ces deux idées peuvent aboutir à la même chose. C'est comme une équipe nationale. Il y a le gardien, il y a les défenseurs, les hommes du milieu et l'attaque qui marque. C'est quand il y a une collaboration franche entre les actions, entre chaque joueur, que l'équipe gagne. Toi seul, attaquant, il faut quelqu'un pour te donner pour aller marquer. Quand la base circule, quand il y a la cohésion, l'équipe gagne. Mais si chacun veut faire un jeu individuel, vous ne pouvez pas gagner. Vous allez perdre. En résumé, qu'est-ce qu'on cherche, l'unité, la paix, la cohésion. La cohésion, elle existait depuis longtemps, depuis nos ancêtres. On doit donc renforcer, renflouer même cette cohésion-là. Ça doit être plus dense.
Vice-président du PDCI, par ailleurs conseiller régional, maître Blessé Jean Chrysostome rassure.
Mais il faut que les gens retiennent qu'au-delà de ce que la politique nous oppose, là, nous nous connaissons tous et nous sommes des amis et des frères. Il y a toujours un lieu de compromis entre nous. Et ce compromis, ça existe.
Il ajoute pour dire que le développement n'a pas de couleur politique, donc tous sont concernés par les investissements. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Puis le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, a fait don de matériel informatique à la police, aux brigades de gendarmerie, aux préfectures et sous-préfectures de Doropo, Teini et Bouna. C'est dans la région du Bounkani. Ce don intervient en vue de faire face aux défis sécuritaires dans la lutte contre la fragilité des zones du nord du pays. Dans le Bounkani, pour Radio de la Paix, Jérôme Kouassi.
Au titre de l'année d'exercice, le PNUD a mené un paquet d'activités pour améliorer la collaboration entre les populations et les forces de défense et de sécurité de la région du Bounkani. Le représentant chargé du programme en prévention de conflits et de cohésion sociale du PNUD, Alassane Camara.
Des dialogues socio-sécuritaires pour renforcer un peu la collaboration entre forces de défense, de sécurité, population et jeunes. Au respect de l'autorité de l'État, au respect des emblèmes, à s'engager dans la prévention des conflits à travers l'animation des mécanismes. Mécanisme d'alerte précoce. Une grande caravane pour la paix, une marche sportive qui a rassemblé 300 personnes qui s'est faite avec le commissariat, les forces de défense et de sécurité ici dans le Bounkani.
Le commissaire de police de Bouna a salué l'initiative du PNUD, Kouassi Maximin.
On a réalisé une activité sportive ici, de cohésion sociale. Je pense que cette activité a porté ses fruits. Ça nous a permis de prendre part à des élections locales et sénatoriales en toute sécurité dans la paix. Et vraiment aujourd'hui, vous venez nous appuyer avec du matériel informatique et surtout des torches pour nous permettre de sécuriser la population. Merci au PNUD pour l'appui à l'État de Côte d'Ivoire et plus particulièrement à la police.
Des consultations publiques avec les populations du Bounkani sont déjà entreprises sur la planification des activités de l'année 2024. Selon le chargé des programmes en prévention des conflits et de cohésion sociale, Alassane Camara, les activités seront toujours pilotées par le PNUD en partenariat avec l'État de Côte d'Ivoire et la République fédérale de l'Allemagne. Jérôme Kouassi, Bouna, Radio de la Paix.
Fonction publique ivoirienne, les personnels enseignants hors de leur ministère d'origine pourraient être reclassés dans les échelles de traitement à égalité de grade et échelon avec les autres fonctionnaires de leur nouveau ministère. Ceci en application du décret 1976, du décret 2976. Théodore Zadignana, président de la plateforme des organisations professionnelles du secteur public qui trouve la décision fondée, plaide tout de même pour sa suspension ou à un degré moindre sa modulation. On l'écoute.
Je voudrais d'abord rappeler que cette mesure-là est simplement l'application d'un décret pris en 1976. Ce décret-là a institué pour les enseignants des échelles particulières qui permettaient aux enseignants d'être ce qu'on a appelé décrocher de la grille générale. Mais dans ce décret, l'article 3 précise que cette spécificité qui est faite aux enseignants appartient uniquement à ceux qui restent dans le ministère de l'Éducation et de la Formation. En 2006, 2007, 2008, lors des négociations pour l'institution d'un profil de carrière pour les enseignants, cet article a été rappelé pour dire aux enseignants que en mettant en place un profil de carrière incitatif pour eux, l'objectif c'était de les amener à rester dans le système éducatif et non d'en sortir. Entre-temps, des ministères sont devenus des ministères à prime et ont donc attiré vers eux de nombreux enseignants et aujourd'hui nous sommes à plus de 11 000 enseignants concernés. Le gouvernement, à la fin de l'année dernière, a décidé de mettre en œuvre l'article 3 en donnant 3 mois aux enseignants concernés. Ma réaction en tant que syndicaliste, c'est que dans un premier temps, c'est un décret et l'État peut décider d'appliquer un décret, quel que soit le temps mis. La seule chose, c'est qu'il s'agit du monde enseignant. Et demander à des gens qui ont quitté le secteur depuis des lustres, qui ont perdu la main, la pédagogie, l'andragogie, de revenir dans le milieu enseignant, je ne sais pas quel objectif on vise. Est-ce un problème financier ou un problème pédagogique? La deuxième chose, ça pose un problème social. Donc, il faut les laisser là où ils sont et fermer la porte à ceux qui veulent y aller maintenant. Nous sommes donc dans un plaidoyer pour demander au gouvernement de sursoir ou à tout le moins de moduler.
Voilà, c'était donc Théodore Zadignana. Il a été joint par Julien Cardin. Une campagne de sensibilisation sur la déclaration de la naissance a été organisée le mercredi 15 novembre à San Pedro. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de l'état civil de l'identification initiée par l'ONESI en collaboration avec l'UNICEF et la Fondation Sébastien Haller. Un tournoi de football à l'endroit des enfants de 12 à 16 ans est utilisé comme support de sensibilisation. Kofi Benson.
Utiliser le football pour véhiculer le message de l'importance de la déclaration des naissances est en substance la vision de cette campagne de sensibilisation, selon Grosso Nadège de la Fondation Sébastien Haller.
Sébastien étant lui-même footballeur, je veux dire s'il est là aujourd'hui, c'est parce qu'il a eu des parents qui ont bien voulu le déclarer. L'important du sujet, un enfant qui n'est pas déclaré n'a pas d'identité, il bloque son avenir, il bloque les droits fondamentaux. Sens qu'on a annoncé le projet. La campagne s'appelle No Name, mon nom est personne. Parce que ben, si tu n'as pas d'identité juridiquement, ben, tu n'existes pas. Nous, on a utilisé la partie football, de sport, pour pouvoir justement rassembler le monde. Donc la partie sensibilisation et établissement des documents est faite avec l'ONESI. Donc les parents qui n'ont pas d'extrait, qui n'ont jamais déclaré leurs enfants, seront amenés à aller à la sous-préfecture justement pour déclarer ces enfants-là. Donc il y a tout un processus qui est mis en place qui est gratuit.
Dossé Christine, déléguée régionale de l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identité. Le constat fait sur le terrain montre que nombreuses sont les mères qui négligent ou n'accordent aucun intérêt à la déclaration des naissances. Il faut que cela change, d'où cette caravane.
J'ai été vraiment surprise de voir des dames, quand tu les vois dehors, et puis savoir qu'elles-mêmes n'ont même pas déclaré d'abord les enfants. Moi, j'ai été un peu surprise. Donc, vraiment, on les encourage à venir déclarer les enfants. Ça ne coûte rien. C'est juste pour payer les frais de thème qui est à 500 francs, même si le délai est passé.
Après San Pedro, Dabou sera la prochaine localité qui accueillera la caravane. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Au Sénégal, le PASTEF a annoncé dimanche soir son plan B pour l'élection présidentielle de février 2024 après l'échec de son leader Ousmane Sonko, qui n'a pas réussi à être de nouveau inscrit sur la liste électorale. Le parti d'opposition a désigné Bassirou Diomaye Faye, secrétaire général et bras droit d'Ousmane Sonko, comme son candidat. Celui qui est secrétaire général du PASTEF et bras droit d'Ousmane Sonko est en détention depuis le mois d'avril. Il avait été arrêté après avoir publié un post sur les réseaux où il critiquait le comportement de certains magistrats dans l'affaire de diffamation qui oppose Ousmane Sonko et le ministre du Tourisme, Mam Niang. Le PASTEF assure également que la candidature d'Ousmane Sonko n'est pas encore écartée tant que les recours judiciaires ne sont pas épuisés. Toujours en Afrique, l'armée malienne a repris donc aux groupes armés la ville de Kidal le mardi 14 novembre 2023. Les FAMA ont fait leur entrée triomphale à Kidal, ville du nord du Mali, qui depuis mars 2012 échappait à leur contrôle suite au déclenchement d'une rébellion à dominante Touareg. À Bamako, comme dans toutes les régions du Mali, cette reconquête de Kidal a été accueillie avec joie par les populations. Alors, fondateur et ancien président du parti politique ILMA, ancien premier ministre du Mali, Moussa Mara, explique cet accueil populaire et enthousiaste qui a été réservé à la population à la libération de Kidal.
Il faut savoir que depuis 1963, c'est-à-dire depuis 60 ans, la ville de Kidal, la zone de Kidal a toujours été l'épicentre des rébellions et des tentatives de division de notre pays. Et ça s'est exacerbé en 2011-2012 par le départ de l'armée des forces de sécurité de Kidal. Donc Kidal est devenu une sorte de ville entre les mains des groupes rebelles. Et cela a sans doute touché la fierté de nos compatriotes. Donc voir de nouveau Kidal retourner dans la République avec la présence de l'État, ça suscite un sentiment de fierté légitime chez l'ensemble de nos compatriotes. Nous tous Maliens, nous devons être conscients que le Mali a d'autres combats à mener que de se faire la guerre entre les Maliens. Le Mali est un pays où les ressources ne sont pas abondantes. Nous devons orienter le peu de ressources dont nous disposons vers la prospérité. Donc la guerre n'est dans l'avantage de personne. Et c'est ce message que nous lançons tous à nos frères des différents groupes rebelles pour leur dire, revenez toujours aux discussions. Moi je parle à eux tous. La division de notre pays est hors sujet. Le Mali ne sera jamais divisé. Donc il s'agit pour ceci de s'engager dans une dynamique de discussion.
Voilà, c'était Moussa Mara, ancien Premier ministre malien, joint par Soro Adams. Parlons cette fois football. Les Mamelodi Sundowns sont de retour au sommet du football africain après avoir battu les Marocains du Sporting de Casablanca 3-0 en finale de la Ligue des champions féminines de la CAF. C'était hier dimanche au stade de la paix de Korogo. Un doublé de la meilleure buteuse Tola Kele Refiloué et un but de Boitoumelou Rabalé ont permis aux Sud-Africaines de s'imposer en Côte d'Ivoire et de récupérer le titre qu'elles avaient abandonné l'année dernière. À présent, la réaction de l'entraîneur des Mamelodi Sundowns, Jerry Tchabalala.
I think they normally say lightning, it doesn't strike twice at the same place, but it looks like it has struck twice on the same place. The inaugural one, we've won the tournament without conceding.
Il y a un dicton qui dit lorsqu'une lumière rentre, cela éclaire tout le parcours. Donc le premier championnat, nous n'avons pas encaissé de but. Deuxième, nous n'avons pas encaissé de but. Et le troisième championnat dans lequel nous sommes également, nous n'avons pas encaissé de but. Cela ne veut pas dire que Mamelodi est plus forte que les autres équipes, mais simplement nous étions mieux préparés. Un coach qui est heureux, ce sont les joueuses qui sont aussi heureuses. Et je pense que cela contamine l'équipe. Il faut savoir que bien vrai, nous avons gagné cette compétition. Nous allons juste continuer à jouer. Nous allons continuer à donner le meilleur de nous parce que la bonne vision, c'est de pouvoir participer au championnat mondial de la FIFA.
Voilà, Jerry Tchabalala, entraîneur des Mamelodi Sundowns. Adjoa Kokora et Nguessan Nadej Kofi sont deux joueuses ivoiriennes de l'équipe du Sporting Club de Casablanca du Maroc. Elles disent entrer au labo pour un futur retour triomphal. On les écoute.
Ça fait déjà un grand plaisir pour moi de venir chez moi au pays pour cette compétition. C'est un tel l'équipe la plus estimée de la compétition et finir désespéré. D'abord, comme le constater, on n'est pas désespéré, mais bien qu'au contraire, nous sommes fiers de nous. Parce que finir deux ce podium, c'est vraiment pas évident.
Kofi Nadej,
on devient deuxième équipe d'Afrique. Donc ça a félicité, même si on n'a pas pu gagner ce match aujourd'hui. L'équipe de Sundowns, c'est une grande équipe. Elles ont l'habitude de jouer ces grandes finales. Nous, c'est notre première fois et tout. Et on va rentrer au labo et travailler encore et venir, Inch'Allah. Bon, mon ambition, c'est d'avoir des trophées avec l'équipe, d'aller loin avec l'équipe. On ne va pas s'arrêter là. Comme j'ai dit, on va toujours travailler et avoir des trophées.
Les impressions de l'entraîneur Mamelodi Sundowns, Jerry Tchabalala, et celles des Ivoiriennes du Sporting Club de Casablanca ont été recueillies par notre envoyé spécial dans le Poro, César Yao. L'invité de la rédaction ce jour est le docteur Christophe Kwame, président de Civis Côte d'Ivoire, une association d'éducation à la citoyenneté. Et bien pour lui, dans le cadre de la lutte contre la corruption dans l'administration publique, toutes les personnes assujetties à la déclaration de leur patrimoine sont tenues de le faire auprès de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Docteur Christophe Kwame répond aux questions de Francis Cassie.
Docteur Christophe Kwame, bonjour.
Bonjour.
Il y a un programme appelé programme des personnes assujetties à la déclaration du patrimoine. Qu'est-ce que cela signifie?
En réalité, dans le programme de promotion de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption que le gouvernement ivoirien a lancé depuis 2012, il y a un point précis qui concerne un certain type de fonctionnaires, c'est ceux-là qu'on appelle assujettis, et doivent déclarer leur patrimoine, c'est-à-dire leurs biens. C'est ceux-là qu'on appelle les assujettis à la déclaration de patrimoine.
Alors donc vous dites ce sont des fonctionnaires, donc ça concerne seulement les personnes qui travaillent à la fonction publique?
Non, c'est des fonctionnaires, des personnes nommées par la fonction publique, par le président de la République, par le premier ministre, et des personnes élues comme les maires et les agents aux maires, les présidents de région et les vice-présidents, les magistrats, les avocats qui ont un certain nombre de niveaux. Donc dans les assujettis, il y a des personnes nommées et il y a des personnes élues qui sont assujetties à la déclaration de patrimoine en Côte d'Ivoire.
Alors, est-ce que c'est toutes les personnes nommées?
Au niveau de la fonction publique, l'État de Côte d'Ivoire fait le choix d'une liste nominative. Elle est longue, donc on ne va pas la citer, mais ce n'est pas toutes les personnes nommées. Si vous êtes un cadre nommé et que dans le cadre précis de votre travail, vous n'avez pas de risque de corruption majeur, vous ne serez pas assujetti.
Alors, mais est-ce que ces personnes elles-mêmes savent qu'elles sont assujetties à une déclaration de leur patrimoine?
Oui, parce que depuis 2015, la Haute Autorité a fait une campagne de sensibilisation avec des courriers adressés à tous les ministères de Côte d'Ivoire, avec des courriers adressés à toutes les collectivités territoriales, c'est-à-dire les maires, les régions et à tous les EPN, les établissements publics nationaux, comme par exemple les CHU, dont certaines personnalités sont assujetties. Tous les assujettis ont été approchés par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance pour leur dire la loi vous assujettit, vous devez déclarer votre patrimoine. Cela a été fait en 2015 et 2023.
Mais il y aurait 1700 assujettis à la déclaration du patrimoine qui ne l'ont pas encore fait. Pourquoi?
La première raison, vous savez qu'il y a des coutumes, il y a des traditions, comme la tradition à Caen qui interdit qu'un individu fasse savoir ses biens de son vivant. Donc, étant donné que nous étions de la société civile, nous avons travaillé ensemble en collaboration avec la haute autorité pour qu'on franchisse le pas culturel. Il y avait la religion pour d'autres qui était un autre frein. Et c'est ces éléments-là que la haute autorité a mis dans le même bouquet pour dire il faut que tout le monde comprenne le bien fondé.
C'est quoi on déclare concrètement?
Un individu qui est assujetti à la déclaration de patrimoine doit déclarer les biens immobiliers comme les maisons, les biens roulants comme les voitures et les biens fiduciaires comme le compte en banque. Les titres, si vous êtes actionnaire quelque part, vous devez déclarer. Si vous touchez pour des consultances quelque chose dont vous avez signé un contrat que vous gagnez tous les ans, qui vient gonfler votre patrimoine, vous devez déclarer ces biens-là. Voilà ce qu'on appelle le patrimoine d'un individu selon la loi en Côte d'Ivoire.
Mais cela vise quoi? La personne déclare son patrimoine, ça vise quoi concrètement?
Alors, la loi relative à la déclaration de patrimoine est faite pour contrôler les fonctionnaires, les élus et les personnes nommées qui ne seraient pas dans la mouvance de la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, qui permet de poursuivre les fonctionnaires véreux qui, dès qu'ils sont nommés, utilisent le bien public comme des biens privés. Ils détournent les fonds, ils détournent tout l'argent des projets pour construire les hôpitaux et les écoles. Donc, cette déclaration de patrimoine permet comme point systémique pour lutter contre ces détournements-là.
Donc, dans ce cas, la haute autorité pour la bonne gouvernance, les personnalités qui la dirigent, comment elle pourrait être efficace? Par la voie de la nomination ou par quelle voie selon vous?
La haute autorité pour la bonne gouvernance est une autorité administrative indépendante. La haute autorité pour la bonne gouvernance a été instituée par la loi, par l'ordonnance 2013-661. Et à l'intérieur, vous avez la fonction du président. Et dans cette fonction du président, la loi relative à la déclaration de patrimoine, c'est la haute autorité qui doit la gérer avec l'aide des commissaires de justice, avec l'aide du procureur général et avec l'aide des juges du tribunal de première instance. Donc ce n'est pas la haute autorité seule, en tant qu'administration, qui doit le faire.
Alors, par rapport à l'efficacité, vous dites que la haute autorité pour la bonne gouvernance est une institution indépendante. Nous ne comprenons pas cela, puisque son président ou son personnel est nommé par le président de la République.
La nomination d'une personnalité à la tête d'une autorité administrative indépendante est la norme. La nomination, c'est un acte unique, mais le choix de la personne, c'est sur la base de conseils et de cooptation. Quand le président de la République nomme le président de la haute autorité, le travail de la haute autorité reste indépendant. Elle ne présente pas un programme au conseil des ministres et ne demande pas l'avis du président avant une action. Le président de la République, après la nomination par décret du président de la haute autorité, ne regarde plus ce que le président de la haute autorité fait. Et la loi lui confère cette indépendance-là.
Docteur Christophe Kouamé, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, monsieur.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Le docteur Christophe Kouamé, président de Civis Côte d'Ivoire, aborda la question de la déclaration du patrimoine dans l'administration publique. Il était interrogé par Francis Cassi. Le rappel des titres. La célébration de la journée nationale de la paix, 15 novembre dernier, l'Église catholique de Côte d'Ivoire saisit cette occasion pour appeler à la culture de la paix, au vivre ensemble et au pardon du prochain. Et puis transcender les divergences et ouvrir le rayonnement de la paix dans la région de Gbeke, l'invitation formulée par le chef de canton de Béoumi aux élus et cadres de la région. Au Sénégal, le PASTEF, parti d'Ousmane Sonko, a annoncé dimanche soir son plan B pour l'élection présidentielle de février 2024 après l'échec de son leader qui n'a pas réussi à être inscrit sur la liste électorale. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information revient à 15h sur nos antennes. D'ici là, retrouvez Francis Cassi pour la revue de presse.
Bonjour à tous. Nous démarrons notre revue de presse du lundi par